Let's go. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On est aujourd'hui le 18 avril 2021. Il est actuellement 11h16 et on est parti pour un nouveau podcast avec un invité aujourd'hui. On a Alexis avec qui j'ai déjà fait des podcasts. On avait notamment fait les Tout pour le muscle. Il me semble qu'il y a plus d'un an, à l'époque où on partageait un peu notre aventure tous les deux sur notre prise de muscle. Hein, tout simplement, et on partageait un peu nos ressentis, tout ce qu'on mettait en place pour atteindre nos objectifs, etc. Alors, c'est un épisode qu'on a arrêté, mais bon, pourquoi pas le reprendre un jour? Ça dépend de nos objectifs à chacun, sachant que bon, depuis un an, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, hein, comme tu le sais, avec le Covid, etc. Donc, forcément, on a peut-être revu nos objectifs personnels et on est peut-être parti sur autre chose de complètement différent, mais bon. Anyway, Alexis, je te laisse te présenter.
Salut PL, salut à tous. Bon, du coup, je vais me représenter. Ouais, comme tu dis, ça fait même plus d'un an, parce qu'au final, si on regarde quand on avait fait le podcast, on pouvait encore s'entraîner en salle. Ça doit faire un an et demi, peut-être un peu plus même, qu'on a tourné le premier.
Ouais,
Donc,
ouais, ouais.
pour ceux qui avaient jamais écouté ces petits épisodes-là, je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans, je suis en dernière année d'infirmier. Donc, mon projet pro, moi, c'est devenir kiné. Je suis comme PL, c'est-à-dire passionné de sport, de sciences de l'entraînement, de la nutrition, d'énormément de choses, de lecture. Voilà, bon, on est un peu pareil sur ce point-là. Et puis, je pense que j'ai fait le tour.
En lecture, faut que tu expliques un petit peu aux gens ta manière de fonctionner parce que moi, à côté de toi, je suis un petit lecteur du soir. Toi, tu es un grand malade de la lecture.
Alors, niveau lecture, c'est compliqué. On va dire que je fonctionne un peu par période. Disons que quand j'ai commencé à découvrir un peu les influences, en fait, pour la petite histoire, j'ai perdu énormément de poids, donc comme toi, mais moi, c'était au lycée, en fait. J'ai perdu peut-être 40 kilos quasiment à ce moment-là. Et entre ma seconde et ma première. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert genre tout ce qui était muscu, tout ce qui était fitness, développement perso. Et je me suis pris un peu de passion pour la lecture comment dire, à tout ce que ça pouvait apporter. Tu vois, tout ce que tu peux apprendre dans un bouquin, c'est énorme. Plutôt que de regarder une série complètement inintéressante pendant 3-4 fois, tu vois, genre que j'ai déjà vu 2-3 fois, bah finalement, au moins, je me suis intéressé à la lecture. Alors, faute de chance, j'ai commencé avec des bouquins qui étaient strictement imbuvables. J'ai souvenir d'avoir acheté, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin.
Oui, tu m'en as parlé. Alors moi, je l'ai pas lu, mais tu m'en as parlé et tu disais que c'était assez imbuvable, je me rappelle, il y a un an.
Ouais. Alors, ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai acheté genre il y a 3 ans à peu près, enfin, quand j'ai commencé un peu à vouloir lire des bouquins et à trouver ça cool, parce que je pense qu'on a un peu ce côté où. Moi, c'est ce qui s'est passé personnellement quand j'ai commencé à vouloir lire, c'est que je me suis dit, c'est génial, je découvre un nouveau monde, faut que tout le monde le découvre. Et en fait, je passais plus de temps à dire aux gens, putain, faut lire ça ou autre, que à lire réellement. Donc, on va dire que pendant un an et demi, j'ai un peu flâné, j'achetais des bouquins, je les finissais pas vraiment, ça me faisait chier, quoi. Et depuis le dernier confinement, ouais, donc depuis le premier confinement, pardon. Donc depuis un an, j'ai commencé à lire sérieusement beaucoup de bouquins. Je dois être à un peu plus de 70 bouquins lus cette année. Récemment, là, j'ai lu 3-4 livres. Bon, ce n'est pas des gros livres concrètement, même si cette année, j'ai quand même réussi à lire Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. J'ai lu Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Des bouquins qui sont quand même énormes, enfin, qui font plus de 1000 pages. Et cette année, je les ai quand même bien bien entamés. Enfin, je les ai même finis, quoi.
Mais
Donc ça, c'est
tu vois,
plutôt cool.
excuse-moi,
Ouais.
je te coupe totalement, je suis désolé. Un truc que tu as dit très intéressant, c'est que tu préférais lire plutôt que regarder une série inutile. Alors, justement, c'est une discussion que j'ai eue hier avec mes proches, et je tenais à nuancer ça, mais je vais te demander ton avis. En fait, on parlait notamment des dangers d'Internet, notamment le fait que, selon moi, tu as une source d'information géniale. Mais le problème, c'est que tu as trop de sources d'informations et de généralités. Et du coup, les gens peuvent se considérer comme experts d'un sujet alors qu'ils n'ont pas approfondi le truc parce qu'ils sont noyés dans une multitude d'informations. Exemple tout con, les coachs sur Instagram qui, alors, partagent des informations qui sont intéressantes, mais eux n'approfondissent pas le sujet. Leur but, c'est que des gens viennent du coup prendre leur service pour qu'ils puissent du coup bah, gagner leur vie et aider ces personnes-là de la meilleure manière possible. En général, c'est ça. Sauf que bah, tu as des gens qui prennent ces informations et qui tentent de devenir experts avec ces informations. Et alors que l'avantage d'un bouquin, c'est que tu traites un sujet en profondeur. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, je pense que pour revenir sur ce que j'ai dit, quand je dis des séries inutiles, c'est un jugement de valeur que j'ai moi-même. C'est-à-dire que je ne pense pas que toutes les séries soient inutiles. Je pense que dans certaines séries, tu as même des valeurs, une morale à chaque histoire, comme dans un bouquin pour les romans ou autres. Et c'est mon point de vue perso, évidemment. Après, je suis totalement d'accord avec toi que ce n'est pas en lisant un bouquin ou en lisant un article qu'on devient expert sur un sujet. Je vais te donner un exemple que je trouvais intéressant. Cette année, j'ai lu un bouquin, je ne sais plus l'auteur, ça s'appelle Optimiser votre sommeil, Programme anti-fatigue. Enfin, c'est un bouquin qui est quand même sur la thématique du sommeil. Et en fait, en lisant le bouquin, clairement, il a beau citer des études, il a beau citer énormément de revues, bah, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et que ce soit sur Instagram, sur la multitude des sources d'informations que tu peux avoir, on est rentré dans une période où on a énormément d'informations sur tous les sujets et au final, on s'y perd. Je pense que ce qui est vraiment intéressant avec les bouquins, c'est que tu vas traiter d'un sujet et le bouquin va t'apporter la vision de l'auteur, en l'occurrence. Et quand tu traites cette vision-là, tu prends ce qui t'intéresse. De toute façon, je pense que moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que je trouve un article, un livre ou peu importe, quelque chose qui m'apporte une valeur. Je vais en tirer ce qui m'intéresse. Je ne vais pas négliger ce qui ne m'intéresse pas. Je vais dire, OK, il y a ça qui existe, il y a ça comme alternative, j'en prends conscience, mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas ce qui me semble le plus pertinent. Et je vais tirer les informations qui, pour moi, sont utiles dans mon contexte et dans mes projets
En
ou
fait,
autres.
c'est adopter un esprit critique, peu importe la source. Et ça en revient à conclure que il y a des bouquins qui sont très bons, des bouquins qui sont très mauvais, il y a des sources sur Internet qui sont très bonnes, des sources qui sont très mauvaises. Le tout, c'est soi-même de savoir avoir un esprit critique sur ce qu'on lit, de confronter les idées pour au final construire son opinion et accepter que une opinion, ça évolue. Et ça change au fur et à mesure du temps parce qu'on apprend tous les jours.
C'est
Ouais, moi
exactement
je
ça.
pense que c'est ça la conclusion. Bah c'est plutôt pas mal. Donc je résume, grand lecteur, grand sportif aussi parce que t'as quand même bien évolué. C'est quoi ton rythme en ce moment d'entraînement?
Bah, mon rythme, ça a toujours été à peu près le même, c'est-à-dire que je m'entraîne 7 jours sur 7. J'alterne entre muscu. Bon, en l'occurrence, il n'y a plus de salle de sport, alors autant dire qu'il a fallu que je m'adapte. Donc, on va dire muscu 5 ou 6, ouais, 4-5 fois par semaine à peu près. J'ai pas de programme fixe en ce moment. Et j'alterne avec la course à pied. J'avais aussi des sessions de sprint que je ne fais plus trop en ce moment, faut le dire. Et avant du coup que tout referme, je faisais aussi pas mal de natation et j'avais repris le basket. Donc on va dire que je tournais à 7-8 séances par semaine.
Ok, 7-8 séances, donc c'est assez solide. Et concrètement, comment tu gères ta récupération? Est-ce que tu es quelqu'un d'assez précis sur tes entraînements, sur la qualité de ta récupération, sur ce que tu manges ou d'autres choses? Ou tu as des principes généraux que tu respectes et tu essayes de pas trop te prendre la tête sur toutes ces choses-là? Ou comment tu fonctionnes? Peut-être que ça intéresse les gens de savoir.
Alors, ce qui est super dur, c'est d'arriver à allier tout ce qui est vie étudiante, vie professionnelle et vie sportive. Ça, c'est le côté hyper dur. Tout ça en ayant assez de récup, comme tu dis, et c'est le côté un peu compliqué que j'ai eu récemment. C'est-à-dire que là, je vais te donner un exemple, et je pense que ça va parler à beaucoup. C'est qu'en ce moment, j'écris mon mémoire de fin d'études. Donc, il y a ça à prendre en compte. J'ai le stress de ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Ce que je ferai en septembre ou dans un an, quoi. Donc ça, c'est une source de stress importante que je prends en compte. Donc le mémoire, cette source de stress, le fait que j'étais en stage, donc en même temps que d'écrire mon mémoire, donc je fais 35 heures semaine en stage. Théoriquement, ça va. Sauf que je travaille en plus les week-ends, le samedi et dimanche, ou juste le samedi. Donc en général, je fais des semaines autour de 48, 60 heures. À peu près, parce que le week-end quand je travaille, c'est aux urgences et c'est 12 heures par jour en fait. Donc c'est assez compliqué d'allier tous ces aspects et donc assez 50 heures de travail quoi. Tu rajoutes du coup les entraînements. Autant dire que J'ai des principes généraux sur la nutrition qui font que je me prends pas trop la tête sur ça, c'est pas ma priorité. Et j'ai une dépense énergétique qui fait que je peux manger 4 500 calories, 5 000 calories et ne pas prendre de poids en ce moment parce que je me dépense énormément. À côté de ça, je vais quand même être vigilant à toujours progresser ou à toujours m'entraîner, même s'il y a des jours où, bah, évidemment, tu es un peu moins bien, c'est compliqué. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Truc tout bête, je t'en ai parlé. Avec toute cette charge mentale que j'avais, j'ai fait une soirée, j'ai changé d'oreiller, je me suis réveillé le lendemain, putain, je te jure, bloqué du cou. Ça dure depuis quasiment 2 semaines, j'ai vu un ostéo et tout. Donc la récupération, c'est un truc sur lequel je vais accorder énormément d'importance. Et pour moi, ça passe notamment par le fait de manger assez de calories pour pallier un peu à cette activité physique ou cette hyperactivité, comme certains diraient, et par le sommeil. Donc je pense que le sommeil, ça va être l'aspect qui t'intéresse le plus aujourd'hui.
Bah oui, parce que c'est le sujet
Si je
du
me trompe,
podcast. Alors, ton sommeil, c'est
voilà.
fréquence. C'est quoi ta fréquence de sommeil?
Quand il n'y a pas de soirée, quand tout se passe relativement correctement, j'essaie de me coucher aux alentours de 22h30, 23h. Je me réveille à 7h, parce que, ouais, 7h à peu près.
Ok. Et du coup, ça nous enfin, on va venir au sujet du podcast, parce que là, on l'a bien introduit. Selon toi, c'est quoi le sommeil idéal?
Pour moi, clairement, le sommeil idéal, ça va être un sommeil où je ne vais pas me réveiller la nuit, où ma température corporelle va diminuer, on va dire, de un demi-degré, 1 degré pendant la nuit, donc une bonne température dans ma chambre ou autre, et d'une traite. C'est-à-dire que je vais me réveiller le matin, je vais me dire, mais est-ce que j'ai rêvé? Tu vois, je vais me poser cette question. Ce genre de petits trucs. Et évidemment, m'endormir rapidement. Bon, pour certains, c'est un problème. Pour d'autres, c'est pas un problème. Donc, m'endormir rapidement, dormir d'une traite et me réveiller le matin complètement perdu, mais naturellement et en plein
Ouais,
état de
en pleine forme,
conscience,
plein
quoi.
état de conscience. Donc, selon toi, si je récapitule, sommeil idéal, c'est s'endormir naturellement, enfin, naturellement, tout le monde s'endort naturellement, mais assez rapidement, avoir l'impression de...
Je vais nuancer ce que tu viens de dire. Tout le monde ne s'endort pas
Ouais, bien sûr.
naturellement.
Mais idéalement, dans un monde idéal, s'endormir rapidement, avoir un sentiment de blackout durant la nuit, parce que du coup, c'est synonyme de sommeil profond. Et donc récupérateur, et se réveiller naturellement, donc c'est-à-dire sans réveil. Maintenant,
C'est ça.
évidemment, faut nuancer. Aujourd'hui, la société actuelle fait que c'est pas faisable pour la majorité des gens, entre guillemets, à cause, enfin, entre guillemets, non, à cause des impératifs de la vie. Forcément, y en a qui, il faut se lever pour aller travailler. Donc, tu en as qui ont des horaires fixes, d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'horaires fixes, mais qui ont des responsabilités, ils ne peuvent pas se permettre de commencer à midi tous les jours. D'autres personnes qui travaillent à leur compte, qui ont donc aussi leur niveau de responsabilité et qui doivent bosser. Donc, parfois, ce sommeil idéal n'est pas forcément tout le temps applicable. On est d'accord?
C'est ça. C'est pour ça un peu que je t'ai cité toutes les problématiques que je pouvais avoir. On prend une moyenne, si je fais 50 heures par semaine, que j'ai un stress monumental en lien avec mon mémoire, les partiels, l'avenir que j'aurai d'ici 1 an, quoi. Tout le monde a ce genre de problématiques, tout le monde a du stress et on doit s'adapter à ça. C'est pas le stress qui doit dicter notre vie en général. Et je pense qu'on est tous responsables aussi des choix qu'on fait. C'est-à-dire que le soir, tu peux passer 1 heure devant la télé à manger, ou tu peux passer 1 heure à te préparer à manger tranquillement en écoutant un truc, sans regarder les écrans. Tu vois, il y a une
Ok.
nuance à avoir. Oui, le stress, enfin oui, la vie en général et les coutumes sociétales qu'on a à l'heure actuelle font qu'on passe énormément de temps à être anxieux ou quoi. J'avais fait un podcast sur le sommeil et il y avait un truc qui m'avait un peu perturbé dans mes cours en fait, c'est qu'il y a genre 15% des gens qui prennent des traitements anxiolytiques, antidépresseurs ou des traitements pour dormir, qui prennent des curares, ce genre de trucs, pour arriver à soulager un peu les maux entre guillemets de la vie. Et clairement, moi, c'était un problème que j'avais, parce que le sommeil, en fait, c'est vraiment un problème sociétal. Les gens dorment moins bien, les gens dorment moins longtemps, les gens prennent pas soin d'eux. Et pour un truc sur lequel tu passes un tiers de ta vie, quasiment, on va dire, tu passes un tiers de ta vie à dormir, les gens n'y accordent pas d'importance. On dort beaucoup moins longtemps qu'il y a 50 ans.
Ouais, bah oui, je vois
Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on est responsable aussi de ça. On ne peut pas dire que c'est uniquement la faute de la société ou quoi. C'est des choix qu'on fait. Et si tu es fatigué, bah, tu fais en sorte de ne pas regarder Netflix. Tu regardes pas un, ou tu regardes
ou
pas,
du moins tout le
je sais
temps.
pas quoi, sur YouTube. Voilà, ou tu le fais de temps en temps. Tu vois. Je pense que combien de personnes mangent devant la télé? Et moi, le premier, tu vois. Mais c'est un truc nul. C'est un truc. On ne
Mais
partage
non, mais
pas nos
c'est un truc
repas. On...
simple, en fait. Tu vois? T'as pas besoin de réfléchir ou
Ouais?
de. Et en fait, enfin, ce que tu dis sur les l'aspect de des médicaments antidépresseurs et tout, c'est intéressant parce que c'est encore une fois l'aspect de facilité qui permet aux gens de faire ce choix-là. Je dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de médicaments, enfin, je veux dire, il faut. Tout est une question de contexte. Mais peut-être qu'avant d'arriver à prendre ce genre de choses, parce que le médecin a dit que. Okay, faut pas oublier qu'il y a toute une industrie derrière aussi. Encore une fois, je suis pas complotiste, hein, mais je dis juste que peut-être qu'avant de vouloir absolument prendre des médicaments, peut-être que c'est bien aussi d'essayer de comprendre, même si je sais que c'est pas facile tout le temps, son problème, et essayer bah, de le résoudre autrement que par ce moyen-là. En fait, c'est cet aspect facilité, je trouve, qui est dommage. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah mais clairement, il y a, tu parles d'un aspect un peu industriel, mais on est quand même responsable. Enfin, je te donne l'exemple des anxiolytiques. Les anxiolytiques, en général, c'est des benzodiazépines. Il y a énormément d'effets secondaires liés aux benzodiazépines, et on est capable de donner des anxiolytiques, des benzos, des antidépresseurs à des gens, et en même temps de leur donner d'autres médicaments pour prévoir un peu les effets secondaires. En se disant, bon, tu vas avoir tel effet. Donc, clairement, l'industrie pharmaceutique fait qu'on donne un médicament, mais finalement, on a besoin de te donner un autre médicament
Ouais.
pour pallier les effets secondaires du
Donc
premier
ça les arrange
médicament.
deux fois en
Et au
fait.
final, je vois des fois des. Ouais, clairement. Et puis, tu as un effet sédatif avec les benzos, par exemple. Les benzos, pour la petite histoire, en gros, ça fonctionne au travers, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler,
Si,
des
si, si,
GABA,
si.
l'acide gamma-aminobutyrique. En gros, ça fonctionne au travers de ça, sauf que ça a des effets tellement sédatifs sur les gens, bah que c'est bon, les gens, ils deviennent inertes. Comment tu veux sortir d'une dépression? Alors évidemment, il y a des dépressions sur lesquelles je suis d'accord, il y a besoin de traitement. Et pour avoir fait des stages en psychiatrie, il y a des gens qui ont vraiment des histoires de vie
Oui,
qui
bien
sont
sûr, c'est ce que je
compliquées,
disais.
et on ne pourra jamais remettre ça en question, tu vois. Mais à partir du moment où tu es dépressif, que tu ne te sens pas bien dans ta vie, la solution pour moi, c'est peut-être pas. Déjà, les gens qui ont des antidépresseurs, c'est qu'ils ont consulté. Donc, ils se sont
Oui,
rendus
première
compte que ça
étape
n'allait
déjà.
pas. Ou alors leurs proches. Donc, il y a un côté extrêmement positif. Mais on va te donner un médicament qui va limite t'endormir, tu vois. Comment tu vas arriver à sortir de ce mood, cette période de ta vie qui ne se passe pas bien pour toi en prenant une pilule? Il n'y a pas de pilule
Bien sûr,
magique, tu
et
vois.
puis moi je pense que le problème, c'est que ça va pas au cœur du problème. Tu vois, je pense que quand tu as un problème comme ça peut être familial, je veux dire, je suis pas dans la vie des gens et je comprends, comme tu dis, qu'il y a des gens, ça va très loin. Avant de prendre des antidépresseurs, etc., juste, faut consulter. Mais quelqu'un qui peut t'aider mentalement, tu vois, quelqu'un qui peut du coup, je veux dire, essayer de comprendre. Parce que le problème du médicament, c'est qu'il comprend pas ton problème. Il démasque.
En fait, tu vas simplement
Voilà, bien
traiter
sûr.
la symptomatologie. Tu vas pas engendrer, enfin, tu vas pas résoudre le problème de fond qu'il y a
Ah oui, bah
avant.
oui.
Tu vois, il y a un truc qui est hyper important, et je te l'ai déjà dit récemment. C'est William James. Je sais pas si vous connaissez. C'est un psychologue américain qui avait pour dicton, en fait, de dire à peu près, hein, c'est pas ses mots, mais les gens ne sont responsables que d'eux-mêmes. Et il y a une partie de vrai là-dedans, à se remettre en question et se dire, ok, je dors 6 heures par nuit, c'est à cause de mon taf, c'est à cause de mes enfants. Non, il y a un moment, c'est les gens sont responsables que d'eux-mêmes. Il faut être capable de se dire, là, c'est à nous de changer telle ou telle activité pour se sentir mieux, pour perdre
C'est
du poids,
super
pour
dur.
mieux dormir.
C'est
Il y a plein
super
de trucs
dur,
qu'on peut
mais
mettre en
encore une
place.
fois, on est
Et
responsable que de soi. Et
voilà,
excuse-moi juste, le
après,
courage de
évidemment.
vouloir changer les choses, c'est accepter de le faire en ayant peur aussi. Tu vois, par exemple.
C'est ça. C'est ça. Mais clairement, après, tu vois ce que j'allais dire. Il y a aussi à prendre en compte qu'on n'a pas tous les mêmes capacités cognitives à se dire tout le monde est responsable que nous-mêmes. Évidemment que si on a, je sais pas, des galères, une voiture, un accident ou quoi, c'est peut-être pas de notre faute. Et je l'entends, il y a des gens qui ont une histoire de vie qui est particulière et qui est propre à eux. Mais pour la majorité des gens, je pense qu'on est capable tous de s'en sortir correctement et de se remettre en question, de faire en sorte de poser des bases à notre vie pour arriver à
Mais oui,
mieux se
et encore une
sentir.
fois, ça c'est des conseils. Faut savoir que voilà, t'as des gens qui sont incapables de le faire parce que l'environnement dans lequel ils ont évolué leur a pas inculqué cette valeur-là, par exemple. Tu vois? Et une autre chose, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, c'est super facile de parler.
Oui.
Mais après, chacun, entre guillemets, est responsable de soi et enfin, si tu veux changer, il faut que tu aies cette volonté aussi. Donc c'est un peu c'est compliqué, mais encore une fois, voilà, le plus important, c'est on ne dépend que de soi-même, on est responsable de soi-même, et personne n'ira te chercher. Les gens peuvent t'aider, te conseiller, mais personne n'ira te chercher.
Et ça, c'est Ouais, c'est exactement ça. Personne vient de chercher. Mais ça, c'est applicable dans tous les domaines de la vie. Tu vois, on a un peu
Oui,
divagué,
mais
sûrement
c'est
à
pas
cause de
grave.
moi, du sujet quand on discutait du sommeil. Mais clairement, tu peux te dire que personne ne te force à aller au McDo. Personne ne te vient te prendre par
Tu
la
mets de
main
la
et te dire,
nourriture dans ta
viens, on va au
bouche.
McDo. Voilà, personne ne t'amène le McDo chez toi, à part quand tu. Mais tu vois, personne va commander pour toi. Ça, c'est un contexte. Personne te dit de regarder la télé
Oui, bien
avant
sûr.
de dormir. Il y a plein de trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense que pour revenir un peu sur le sujet du sommeil, c'est vrai qu'il y a des jours où moi je vais m'endormir à 23h parce que tu vas partager, je sais pas, la soirée avec ta copine ou avec ta famille. Et évidemment, mais tu vas pas passer la soirée à regarder un film que tu as déjà vu 10 fois. Et que t'as pas envie de revoir, et que t'es fatigué,
Mais
ça,
bien
je pense
sûr.
qu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Il y a, ouais, enfin voilà,
Et
tu vois ce que je veux dire.
donc du coup, voilà, sommeil idéal, ça passe aussi par... Je pense que ça passe par comprendre son intérêt. Comprendre l'intérêt du sommeil, notamment sur l'état mental de la personne, les performances cognitives, le bien-être au final. Parce que, voilà, les recherches sont claires, hein, un manque de sommeil contribue à des performances cognitives diminuées dues à cette dette de sommeil, donc une capacité à faire des choix peut-être plus faible aussi. C'est plus facile de craquer, c'est plus facile de trouver des excuses, c'est moins facile de faire les choses parce que on a cette dette de sommeil. Donc avoir un sommeil idéal, c'est comprendre son intérêt et comprendre que en fait, bah, le sommeil, c'est le plus important, ça doit être une priorité. Tu vois, il faut un peu aller à l'encontre. Enfin, je dis par rapport à ce que je pense. Hein. Encore une fois, ici, on prétend pas tout savoir. On dit juste ce qu'on pense à l'heure actuelle. Hein. C'est important de nuancer. Les entrepreneurs qui disent qu'ils se réveillent à 4 heures, qu'ils dorment 5 ou 6 heures par nuit, voire moins, c'est du bullshit complet en fait. C'est pas comme ça. Enfin, je dis pas que tu peux pas réussir tes projets comme ça, mais tu t'aides pas en tout cas. Après, il y a des gens qui sont obligés, tu vois, par exemple, les boulangers, c'est un choix de vie qu'ils ont fait aussi, où ils doivent se lever tôt, etc. Mais ils savent également, ils sont impactés par le manque de sommeil, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important pour une bonne performance cognitive, ta manière de réfléchir, de prendre des décisions, même performance globale, physique aussi, hein, pour s'entraîner, un bien-être mental. Et clairement, le manque de sommeil, ça a des effets aussi, enfin, je veux dire, ça augmente les niveaux de faim, ça dérègle complètement tes hormones ghrelin, leptine pour régler ta faim, pour réguler ta faim, pardon. Ça peut t'emmener à faire des choix par facilité plutôt que par volonté. J'entends par là sortir de ta zone un peu de confort, même si c'est un peu bateau. Donc moi, je pense que ça passe par là.
Alors là, tu as abordé énormément de sujets. Pour reprendre ce que tu disais sur la faim, oui, c'est nécessairement plus simple de sortir un plat préparé que de cuisiner une fois que tu es fatigué. Et c'est un choix de facilité. Après, tu parles d'un truc qui est important, enfin, tu l'as un peu soumis, c'est que finalement, c'est une question de volonté. Sauf que cette volonté, tu peux arriver à la détourner par des questions d'habitude. Perso, j'ai beau avoir, je sais pas, fait une nuit blanche, mes habitudes font que je vais vouloir cuisiner plutôt que de manger un truc préparé, parce que je prends énormément de plaisir et c'est mon habitude. Ensuite, tu as parlé d'un truc, c'est l'impact du sommeil. Les études, elles sont claires, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a un truc qui est jamais cité quasiment dans le fitness, de toute façon, on le sait toutes, la majorité des gens, on a à peu près les mêmes influences et on voit à peu près qui discute de quel sujet. Et dans les études sur le sommeil, on se rend compte que les gens perdent plus de muscles, perdent moins de gras, sont en moins bonne forme physique, ce genre de trucs. Mais dans le bouquin que je te disais, et j'ai retrouvé d'ailleurs l'auteur, c'est le professeur Pierre Philippe, donc anti-fatigue. Et dans son bouquin, en fait, il expliquait qu'après 16 heures de veille, 16 heures, donc c'est une journée en soi, c'est comme si, et qu'on conduisait, c'est comme si on avait un verre et demi
Ah
d'alcool,
ouais.
voire deux verres en fonction des gens. Donc c'est comme si on avait bu juste après 16 heures de veille. Donc imagine au bout de 24 heures, au bout d'une nuit blanche
Ok.
ou autre. Tu vois l'impact que le sommeil va avoir sur notre vie en général. On va être plus aigri, on va être plus sensible, on va faire des choix, comme tu dis, par facilité, on va perdre moins de gras. Et franchement, le sommeil, c'est clairement la base de tout. On progresse beaucoup mieux quand on dort mieux. De base, c'est super simple à dire, mais le sommeil, c'est beaucoup trop important et trop souvent négligé. Et tu parlais d'un truc, les boulangers, par exemple, n'ont pas le choix que de dormir et de se réveiller super tôt pour faire leur pain ou autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Et les gens qui remplissent, pour l'avoir fait, hein, c'est affreux, les gens qui remplissent les rayons, qui font le fasting dans les supermarchés, ils se lèvent à 4 heures du mat.
Bien sûr.
C'est un taf hyper dur. Les infirmiers et les infirmières, quand ils travaillent un jour du matin, un jour du soir, ben, quand tu es du matin, tu te lèves à 5 heures, le lendemain, tu vas te lever à midi, et la fois d'après, tu vas te lever encore à 5 heures. Tu n'as aucun rythme de vie, et il y a énormément de professions sur lesquelles c'est le cas. Et je pense que ça, par contre, c'est un truc sur lequel, bon, à part en changeant de taf, on n'a pas d'impact. Donc on doit s'adapter, et il y a énormément de façons de s'adapter à ça. Et de toute façon, c'est nous qui
Mais oui,
faisons les
bien
choix
sûr.
aussi
Bien
vis-à-vis de
sûr.
ça.
Après, tu as souligné notamment un point important, au-delà de la performance cognitive, c'est l'impact sur la composition corporelle. Et je pense que ça intéresse les gens. Il y a des études qui montrent que voilà, tu prends deux groupes, tu as deux groupes, ça j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent, mais c'est important de le rappeler. Tu as deux groupes à peu près des mêmes individus, même échantillon, en termes de propriété, on va dire, caractéristiques, pardon, je cherchais mon mot, tu les mets en déficit, même déficit, les deux groupes perdent sur la moyenne à peu près le même poids, sauf que cette perte de poids en termes de composition corporelle n'est pas du tout la même. Le groupe qui dort très bien va perdre peut-être 80% de gras et 20% de masse musculaire, parce que oui, lors d'un déficit, tu peux éventuellement perdre un peu de masse musculaire. Et dans l'autre groupe, ça peut être totalement l'inverse. Donc, du coup, c'est un impact quand même non négligeable. Ça veut dire que tu peux faire tous les efforts du monde. Tu peux mettre tout en place de manière optimale pour perdre le poids, le gras que tu veux. Si tu dors mal, malgré tous ces bons éléments, ça peut tout impacter. Donc, c'est... Ouais, vas-y.
C'est ça, l'impact du
Eh
sommeil.
ben oui, bien sûr, oui,
Et
bien sûr.
il y a un truc, excuse-moi, que tu as dit, c'est que tu peux mettre tout de manière optimale, mais c'est dans ton contexte. C'est-à-dire que évidemment que ce sera pas parfait, ce sera pas parfait, tu vois, ça fera pas partie des comment des gold standards, tu vois, de la société. C'est-à-dire que tu vas pas dormir 10 heures par nuit d'une traite sans te réveiller
Bah oui,
ou
bah oui.
quoi,
Du coup, voilà, c'est une
mais
question
tu feras tout ce qui est en
de
ta
contexte, encore une fois.
capacité
Donc, si je...
pour arriver
Ouais,
à
vas-y, tu voulais
dormir
dire un truc.
correctement.
Donc, du coup, sommeil idéal, je résume. Comprendre déjà son intérêt, s'endormir aux mêmes heures,
Non, non, non,
dormir d'une
vas-y, vas-y.
traite, donc blackout, et se réveiller naturellement, dans un monde idéal. Contexte. Quelqu'un qui dort, qui a forcément des impératifs dans la vie, qui doit se réveiller par exemple à 7 heures le matin, il peut prendre
Après,
l'habitude de se réveiller à 7 heures du
ouais,
matin,
vas-y,
parce que ton
dis-moi.
rythme biologique, donc circadien, se cale en fonction de tes habitudes. Si par exemple il se réveille naturellement à 7 heures du matin et qu'il se couche tôt en conséquence pour avoir ses heures de sommeil adéquates, on en parlera après des heures de sommeil. il n'y a aucun souci du coup. C'est une question de contexte. Heure de sommeil, ça c'est un sujet assez intéressant. On dit souvent que, voilà, il faut 8 heures en moyenne.
Ouais, clairement.
Sauf que faut pas oublier que c'est une moyenne. Tu vois, tu prends deux personnes, tu as une personne qui sur un truc est à 0% et une qui est à 100, une qui est à 1% et une qui est à 100, la moyenne elle est de 50%, on est d'accord. Non, 2, pardon. Ouh là là, je me perds dans mes calculs. Dans mes calculs. Non, non, je me moque pas de toi. Parce que 100 divisé par 2, ça fait 50. Mais en
Ouais.
gros, c'est pour donner un exemple. Tu vois? Ça veut dire que si tu prends une moyenne sur
Alors
un
là, j'étais en
échantillon de
train de
2
me dire, il se
personnes,
moque
tu as
de
une personne
moi.
qui a 100% quelque chose et une qui a
Ok,
2%, la moyenne elle est
non.
de 50%, on est d'accord, à peu
Ouais.
près. Sauf que au final, il n'y a personne qui a 50%. Tu comprends le truc? Tu vois, bref. Mon exemple est pourri, mais je pense que tu as compris l'idée. C'était pas le meilleur exemple du monde. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une moyenne, c'est bien et ça donne
Oui, je
un
vois
bon
très bien ce que
indicatif,
tu
ça
veux
donne un
dire.
repère. Maintenant, tu as des gens qui ont besoin de beaucoup plus
Oui.
et certaines personnes, ce qui peut paraître étonnant, ont besoin de moins. C'est vrai, il y a certains cas, mais c'est assez exceptionnel, des gens qui ils ont 6 heures de sommeil, ça leur convient. Mais c'est plus rare.
Alors, moi, la question que j'ai vis-à-vis de ça, c'est est-ce que les gens ont biologiquement besoin de 6 heures, ce qui existe? Il y a des mutations génétiques qui font que certaines personnes vont avoir besoin de dormir moins, ça existe, mais c'est rare. Ou est-ce que ces personnes qui te disent qu'ils ont besoin que de 6 heures ont pris l'habitude, a fortiori, de dormir que 6 heures
Oui,
par
c'est
nuit?
vrai.
Est-ce que tout ce qu'ils font, enfin, est-ce qu'ils ne seraient pas capables d'être beaucoup plus productifs s'ils avaient 8, 9, 10 heures de sommeil? Il y a un côté un peu
Oui, c'est
limite
vrai.
dans le fait
Oui, c'est
de
vrai, ils
se
vont sous-estimer
limiter au
ce temps.
fait de
Donc au
que les
final.
gens nous disent combien de temps ils ont besoin de dormir. Et les gens vont généralement sous-estimer ce temps en plus de ça. Et la qualité du sommeil, elle est beaucoup plus importante selon moi que le temps réel d'endormissement. Tu vois, je vais te donner un exemple parce que ça va faire un peu allusion en même temps au côté fitness et santé qu'on peut avoir. Quand tu es en surpoids, tu es plus soumis du coup à toutes les pathologies à risque telles que l'hypertension, le diabète, tout ça, le cholestérol, ce genre de pathologies. Mais tu as aussi des pathologies silencieuses qu'on peut retrouver la nuit comme l'apnée du sommeil. Les gens en surpoids sont plus soumis à faire de l'apnée du sommeil. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'apnée du sommeil, typiquement la nuit, ça veut dire que ton corps oublie de respirer une, deux, trois fois. Et je travaille avec des médecins qui ont des DU en médecine du sommeil ou quoi, et qui font du coup des analyses sur des gens, par exemple, narcoleptiques ou des gens extrêmement en surpoids. Et elle m'avait montré, donc je remercie énormément les médecins avec qui je travaille parce que j'apprends énormément avec eux. Mais en gros, dans une de ces
Bah oui, c'est
patientes
énorme.
qui faisait 150 kilos, elle faisait presque 70. Elle oubliait de respirer. Et il y a certaines fois où elle oubliait même de respirer plus de 100 fois par minute. C'est juste énorme. C'est même pas possible d'un point de vue physiologique. Et en fait, le problème de base de cette personne, c'est clairement d'être en surpoids. Après, il y a des gens qui vont avoir, tu vois, par exemple, les sinus un peu rétrécis ou quoi. Et là, dans ce contexte-là, ils peuvent avoir des fois de l'apnée du sommeil. J'ai vu un patient de 36 ans qui avait fait un AVC parce que son sommeil était de
À
piètre
cause de l'apnée du
qualité à
sommeil.
cause de
Putain, c'est dingue.
sinus complètement rétrécis. Ouais, l'impact que peut avoir un détail en fait sur la vie des gens peut être monumental. Le mec avait 35 ans, quoi, 36 piges, il a fait un AVC parce que son sommeil
Mais
était
du
de
coup,
piètre
ça,
qualité,
c'est
qu'il
pas un
n'arrivait pas à
problème
dormir à
de
cause d'un
choix.
problème au niveau des sinus.
D'accord. Ok.
Non, évidemment, là,
Et ça, c'est un choix.
mais voilà.
Ça, clairement,
Par
tu
contre, quand tu
vois,
fais 150 kilos,
c'est
c'est ton
exactement
problème.
ce qu'on parle parfois avec Alexis de ça.
Voilà.
Une question de choix. Moi, je disais que choisir, c'est renoncer. Et toi, tu disais que ne rien faire, c'est un choix. C'est ça. Et au final, tout est question de choix.
C'est
Peser
un choix.
150 kilos, alors
Ouais.
oui, il y a des choses qui amènent à ça. Un contexte familial, peut-être relationnel. des problèmes personnels, mais comme tout le monde a au final, il y a des gens sur qui c'est plus grave malheureusement. Sauf que, bah, malgré tout, y arriver, c'est un choix. C'est peut-être dur et pas peut-être qu'il y a des gens qui le prennent de façon méchante,
C'est
mais c'est
ça.
un choix. Ne rien faire également, c'est un choix aussi. Et c'est un peu aussi, je dérive un peu, mais c'est une idée que j'ai en tête là. Dans le sens là, en fait, moi je pars du principe que quand tu as de la chance dans la vie, c'est que tu la provoques. Parce que même si c'est un choix que tu fais qui peut paraître simple, et bah c'est un choix que tu fais quand même. Tu as choisi de faire ça au lieu de ça, et donc du coup, tu as eu cette chance là parce que tu as fait ce choix là.
Ça me fait rire ce que tu es en train de dire parce que c'est exactement. Alors, je t'en ai parlé hier. En 2 jours, j'ai lu, pour ceux qui connaissent ou pas, L'homme le plus riche de Babylone. C'est un bouquin génial. Et dedans, en fait, il parle de la chance. Pourquoi est-ce que certaines personnes. Bon, là, c'est dans un contexte un peu babylonien. Pourquoi la déesse de la chance va-t-elle, pardon, aller vers quelqu'un ou vers une autre personne? En fait, on se rend compte que finalement, la chance. Elle se présente à tous sous différentes formes et c'est pas vraiment une chance. Tu vois, c'est plus que tu provoques la chance. Les actions que tu mènes jour après jour font que les gens vont considérer que tu as de la chance. Alors que toutes les actions que tu mets, ça fait, tu vois, par exemple, tu as de la chance, t'es sec et t'es musclé.
Ah
Non,
ouais.
j'ai pas de la
Non mais
chance.
grave, c'est comme les
Ça
gens qui disent
fait
non mais lui il
4
a
ans,
un bon
5 ans que je
métabolisme.
m'entraîne,
Ça
tu vois, par
m'énerve,
exemple.
tu vois, je veux dire, ok, il y a des gens qui ont des peut-être une masse musculaire de base un peu plus présente ou généralement c'est ça, tu vois, mais t'as des gens aussi, alors t'as un peu de génétique hein, qui entre en compte, je veux dire, faut pas le nier. Mais tu as une question de choix aussi, tu vois. Les gens qui disent, ouais, non, mais tu verras quand tu auras 50 ans, ton métabolisme il va baisser. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois?
Ouais. Alors, la phrase que tu as dit, il a de la
Bien
chance,
sûr.
il a un
Et que tu
métabolisme
sais pas, c'est
rapide.
qu'en fait,
Mais
il
le
saute
mec,
le
ce que
petit
tu sais
déj.
pas, c'est
Et
qu'il
qu'en
marche
fait, le
20 000
soir, il
pas par
rattrape
jour.
tout. Tu vois? Et toi, tu le vois pas, ça. Tu vois? Et que lui, en fait, il bouge tout le temps. Donc en fait, bah,
Ah,
du
il y a
coup, il se
plein de trucs
dépense,
à prendre en
mais sauf que
compte.
tu le vois pas. Tu vois? Mais ça c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est une excuse. Déjà, parce que les gens s'intéressent à ce que font les autres, au lieu de s'intéresser à. Enfin, se mêlent des affaires des autres, au lieu de se mêler de leurs affaires, au lieu de se dire. Au lieu de trouver. C'est des excuses en disant, bah lui, il y arrive parce que. Parce que c'est. Il a de la chance. Ok, mais juste. Ça sert à rien de dire ça. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu peux mieux faire? Qu'est-ce que tu fais mal et que tu peux mieux faire? Tu vois? Par rapport au métabolisme. T'as envie de faire, tu vois. Non, mais lui, il fait ça. Non, mais ça, c'est une
Qu'est-ce que tu
excuse,
as
tu vois.
envie de faire surtout?
Moi, je dis pas que la vie des gens, je m'en fous, c'est pas vrai, tu vois. Mais clairement, si quelqu'un fait quelque chose et dit que, fait quelque chose que. Enfin, si je fais quelque chose que quelqu'un ne fait pas et qu'il me dit que j'ai de la chance, ça me met hors de moi, en fait. Parce que c'est pas vrai, tu vois. Moi, je prends mon exemple. Je suis désolé, je parle de moi, mais je prends mon exemple. Moi, j'étais en surpoids, pas un truc de ouf, mais j'étais à 84 kilos, j'ai perdu du poids. Mais clairement, j'en ai chié, tu vois. Genre, j'ai fait des conneries, mais j'ai fait des efforts que même pas 80% des gens sont capables de faire. Et je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est un choix que j'ai fait et j'ai fait des efforts pour ça. Et il n'y a pas de chance dedans, tu vois. Genre, les 5 entraînements ou 6 entraînements par semaine que je me tape depuis 6 ou 7 ans, c'est pas de la chance, tu vois. Tu vois, donc c'est ça aussi qui. Toi encore, tu fais mieux que moi, tu vois. Je sais que tu
C'est
fais mieux
clair.
que moi. Parce que tu t'entraînes plus, tu te dépenses plus, je veux dire. Mais c'est pas de la chance, c'est un choix, tu vois. Donc au final, non. C'est comme les gens qui dorment mal. Ouais, mais machin, truc. Ok, mais clairement, il y a des choses que tu peux enlever, quoi.
Pour revenir sur le sommeil et sur ce que tu viens de dire, tu as plein de raisons de mal dormir. Mais tu as aussi plein de raisons d'optimiser ton sommeil, tu vois. Ne pas regarder une série au lit. Tu vois, je mets un peu à défaut les écrans ou quoi, mais dormir dans le noir, avoir une température, tu vois, dans ta chambre autour des 18 degrés, tu vois, par exemple. Ne pas avoir de bruit. Et tu vois, il y a un truc qui m'énerve, mais j'en ai déjà parlé avec d'autres gens, et la réponse qu'on me dit, c'est souvent, ouais, mais je vis pas tout seul, j'ai des voisins, J'ai ma sœur, j'ai ma copine qui fait du bruit ou quoi. Mais les bouchons d'oreilles, tu les supportes pas, trouve une autre solution. Mais on est tous capables de trouver une solution. Et en majorité, on va se créer nos propres problèmes. Donc clairement, moi, tu vois, ça, j'ai travaillé de nuit. Et du coup, je travaillais de nuit. Tu sais, je t'avais expliqué pendant le Covid, j'étais en unité Covid, au premier confinement. Et du coup, chez moi, il y avait toute ma famille. Et il faisait énormément de bruit pendant que moi, je dormais. Je te jure, j'ai commencé à
Du
mettre un
coup, tu t'es
masque,
adapté,
j'ai mis des
tout simplement.
bouchons d'oreilles et j'ai dormi. Je me suis
Oui, je
adapté à
vois.
une situation qu'on m'a, entre guillemets, imposée. Y a pas d'excuses en fait à avoir. Tu as plein de petits conseils à mettre en pratique, tu vois, tous les jours. Le fait d'avoir une activité physique, le fait de faire du sport, tout ça, ça va jouer un rôle. Le fait de ne pas rien faire de ton dimanche. Parce que clairement, les gens, je te donne un exemple. Les gens, ils vont dormir 6 heures, enfin, les gens vont dormir, pardon, 6 heures par nuit toute la semaine. Et le dimanche, ils vont taper des nuits de 12-13 heures. Ils récupèrent leur dette de sommeil. Et le dimanche, ils ne font strictement rien, si ce n'est se lever à midi, dormir, faire une sieste l'après-midi, manger et regarder la télé, par exemple. Ça veut dire que le soir, arrivé 22, 23 heures, théoriquement, l'heure où tu devrais aller dormir pour pas avoir de nouveau une dette de sommeil sur toute ta semaine, ces personnes-là vont pas réussir à dormir parce qu'ils n'ont rien foutu de leur journée, ils ont marché 500 pas, ils sont pas fatigués intellectuellement parce que regarder une série, c'est pas fatigant, ça ne demande pas un état de conscience énorme, ils ont tapé une sieste, donc clairement, ils n'ont rien fait sur toute leur journée et arrivé le soir, ils sont pas en plein état pour pouvoir dormir. Si tu veux avoir un sommeil de qualité, il faut aussi que tu aies une activité sur ta journée. Si tu fais rien, évidemment que tu as besoin de moins de sommeil. C'est pour ça, comme tu dis, que des athlètes de haut niveau vont dormir, tu disais dans ton dernier podcast, 13 heures pour un pilote. Ça paraît logique. La charge mentale que tu as,
Bien
elle est
sûr,
aussi en
bien
lien
sûr.
avec
Et
la
au-delà de
quantité de
l'activité
sommeil que tu es
physique,
censé
il y a évidemment
avoir.
les activités cognitives et aussi les émotions. Ça, c'est important à prendre en compte. Tu as des gens, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, des gens qui, voilà, dans leur vie, ont un impact émotionnel fort. Ça peut être au niveau des relations amoureuses, ça peut être perte d'un proche qui peut blesser et faire mal. Tu peux avoir des difficultés de sommeil. Ça, évidemment, c'est au cas par cas et je me permettrai pas de conseiller à ce niveau-là parce que chacun, enfin, c'est très compliqué. Très individuel, ouais.
Il y a un côté très individuel à ce que tu viens de dire, mais pour juste faire une petite aparté sur le fait de perdre un proche ou autre, non seulement tu peux très bien en parler avec des gens, en général quand tu perds quelqu'un à l'hôpital, tu as toujours des psychologues qui sont disponibles à ce moment-là, en fonction du contexte évidemment, mais tu peux communiquer avec les soignants ou autres. Donc ça encore, voilà. Mais il y a un truc que c'est à ça que je voulais en venir, il y a un bouquin que j'avais lu qui s'appelait Le courage de vivre pour mourir. Ce bouquin m'a renversé et expliqué que quand tu perds un proche, au lieu de pleurer ce proche, plante un arbre. Et j'ai perdu mon grand-père en tout début d'année. Enfin, évidemment, comme tout le monde, la soirée, voilà, t'es pas bien ou autre. Et en fait, je me suis résolu à planter un arbre et à profiter, entre guillemets, et à espérer, tu vois, comme tout le monde, qu'il y ait un autre monde ou qui, voilà, peu importe. Et en fait, clairement, tu vis beaucoup mieux. La façon dont tu accueilles la perte d'un proche est totalement différente en fonction de la mentalité que tu as à ce moment-là. Et clairement, il y a une allusion dans ce bouquin qui m'a marqué, c'est imagine si tout le monde plantait un arbre ou une fleur à chaque fois qu'il perdait un proche. Clairement, les villes ne seraient pas aussi laides qu'elles le sont aujourd'hui. On aurait des jardins magnifiques au lieu
Non, mais
d'avoir un cimetière, par exemple. Voilà,
c'est
petit
intéressant et
aparté
j'espère que du
fini,
coup
je te laisse reprendre.
ton
Là où
arbre
t'en
se
étais.
porte bien. Tu vois, j'aime bien. Non, mais j'aime bien cette façon
Ouais, ça va.
de penser. Après, voilà, évidemment, encore une fois, au cas par cas, hein, ça dépend de ton état d'esprit, etc. Et je peux pas conseiller
Oui, c'est ça.
aussi là-dessus. Mais voilà, émotionnellement, quand tu as un choc émotionnel dans la journée, ça peut impacter ton sommeil.
Non, non.
De soit en augmentant les besoins de récupération et du coup tu dors plus, soit en empêchant une bonne récupération via l'incapacité de s'endormir. Ça nous est tous déjà arrivé.
C'est ça. On a abordé énormément de sujets un peu vagues, tu vois, l'apnée du sommeil, les troubles enfin, du comportement, pardon. On a abordé plein de trucs qui impactaient le sommeil, mais concrètement, autant ne pas se prendre la tête sur le
Bien
sommeil
sûr.
pour la majorité des gens et simplement mettre les bases en place. Tu vois, c'est clairement pour moi, si tu veux bien dormir, déjà, tu dois pas te prendre la tête avec le sommeil de base. Si tu cherches à pas dormir, à bien dormir, tu peux être sûr que le soir, arrivé au moment où tu vas te coucher, ton cerveau il va te dire non mais en fait je veux pas dormir parce que on y pense toute la journée. Tu vois, tu penses au sommeil, à comment tu vas
Ouais,
t'endormir
je vois
le
ce que tu
soir.
veux
Bah le
dire.
soir c'est sûr que tu vas pas dormir. Tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, ce qu'il faudrait c'est juste arriver à mettre en place, tu vois, des habitudes, une routine, des trucs que tu arrives à faire au fur et à mesure. Tu peux méditer. Tous les conseils qu'on entend en général, tu peux méditer, mettre la température de ta chambre à température 18-20 degrés, pas plus parce qu'après c'est trop chaud et ton corps, tu dormiras moins bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux ne pas regarder de série dans ta chambre, ne pas regarder d'écran avec de la lumière bleue. Tu peux te concentrer sur partager tous tes repas avec quelqu'un et ne pas regarder d'écran pendant que tu manges. Manger en pleine conscience, des trucs qui, sur ta journée, s'accumulent au fur et à mesure et font que, bah, finalement, tu te sens mieux et tu t'endors mieux. L'ensemble de toutes les actions que tu vas mener au fur et à
Ouais,
mesure de la
c'est
journée
sûr.
vont faire que
Après,
tu te sentiras mieux.
ce que tu dis est juste. Je rebondais juste sur un truc. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. C'est vraiment important ça, parce que des idées, on en a plein. Tu vois,
À
c'est
dire
un
qu'à
peu
faire.
comme le mec qui veut perdre du poids. Quand il le dit, Kennedy, par exemple, demain je m'y mets. Au moment où il le dit, il est toujours dans son confort, en fait. Bah, je sais que j'ai encore du temps, donc ça va. Et une fois que t'es confronté à la réalité, bah...
En fait, pour moi, il y a deux solutions. Soit tu dis aux gens et tu annonces clairement aujourd'hui, je vais faire en sorte de mieux dormir et de prendre soin de ma santé. Soit tu dis rien aux gens et tu te mets en tête de le faire. Dans la première solution, tu t'engages auprès des autres et tu mets en place les choses parce que tu leur as dit. Mais dans la deuxième solution, si tu dis rien, bah finalement, t'as pas le côté gratifiant. Parce que quand tu dis aux gens que tu vas faire un truc, c'est cool, les gens vont te dire, ah, c'est bien, tu vois, c'est bien ou pas d'ailleurs. Ils vont te mettre une charge mentale. Et si tu reçois déjà les gloires de l'action que tu es censé mener, tu vas pas le faire. Tu vas juste vanter des mérites de quelque chose que tu ne fais pas. Exactement comme ce que je te disais au début, je disais aux gens que je lisais, j'avais les retours en mode
Ouais, je
ah c'est
vois.
cool, tu commences à lire. En fait, je lisais quasiment pas. Parce que tu as déjà les gloires de ce que tu dis. Donc tu as deux solutions et il faut que là, c'est un côté inter-individuel que tu es censé connaître, tu es censé savoir si tu es plus du genre à mettre en pratique parce que tu l'as dit aux autres et que tu t'engages auprès des autres, ou est-ce que tu préfères ne pas leur dire pour pas avoir les gloires avant? Concrètement, pour moi,
Non,
c'est
mais
ça le
c'est
truc. Tu as
carrément,
deux
carrément,
petites
je suis carrément
solutions et il faut
d'accord.
que tu te connaisses en
Et
fonction de tes
encore une
pratiques.
fois, comme tu dis, tu as les deux méthodes. Et moi, je rajoutais, comme je dis d'ailleurs dans ma vidéo sur la motivation sur YouTube, la différence entre quelqu'un qui est motivé et quelqu'un qui est enthousiaste. Moi, je dis dans ma vidéo que quelqu'un qui est enthousiaste, il n'est pas vraiment motivé. Parce que tu peux être motivé et enthousiaste, mais tu peux également être uniquement enthousiaste et pas motivé. Et quelqu'un qui est enthousiaste, il va le répéter à tout le monde. Parce qu'en fait, il voit vraiment que les effets positifs du truc. Et il n'est pas du tout critique sur la difficulté et le challenge que ça engendre pour lui. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de tout simple de la personne qui se dit qu'il se met à faire attention à ce qu'il mange demain. Il sait que ça peut lui apporter du bien, qu'il va perdre du poids, donc il est hyper content, tu vois. Et du coup, il va le dire, il peut le dire, enfin, il peut le dire à tout le monde en disant, moi, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Et puis, lorsqu'il y arrive, en fait, ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça. Mais tu peux très bien essayer d'être motivé et le dire à tout le monde. Mais peut-être que avant de vouloir l'annoncer à tout le monde, faut dire bah en fait je le fais pour moi. Donc du coup, c'est vu que c'est moi qui suis responsable de mes progrès, bah je préfère plutôt amener des résultats pour aux autres peut-être pour me dire ok bah là je sais que je suis motivé, tu vois. Et puis même tu passes pour un con aussi si tu dis à tout le monde que tu le fais puis que tu le fais pas. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois dans des situations. Je sais de quoi je parle. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ouais. Exactement ce que je voulais dire, et je suis totalement d'accord avec toi. Clairement. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, c'est l'anglais, tu vois. On a tous, et c'est ça le côté important, je pense, c'est qu'on a tous nos projets, enfin, nos activités qui nous enthousiasment. Et finalement, on est tous responsables, tu vois, c'est ce qu'on disait au début. Mais on a tous des actions. Toi, par exemple, je sais pas,
Ouais,
ça
j'ai
va
plein d'a
être.
priori
Je sais
dessus.
qu'avec toi, je
Plein d'a
suis.
priori dessus.
Désolé, gros. C'est les vidéos YouTube. Je sais que tu as eu du mal à te lancer clairement là-dessus et un jour, tu reprends. Eh ben, moi, c'est l'anglais, tu vois. Et quelqu'un d'autre, ça va
Mais
être le
clairement.
sport. L'autre, l'alimentation. On a tous nos raisons et on vit avec, tu vois. Mais il y a un moment où on est
Voilà, mais je
responsable et
pense qu'en
on
fait,
les met en
c'est une
pratique.
question
Toi, tu
aussi.
recommences tes
Vraiment, c'est plus voir
vidéos.
les
Moi,
vidéos
je
YouTube,
starte
je le fais
l'anglais
pour moi,
depuis
tu vois.
longtemps maintenant.
Parce qu'en fait, j'ai tendance à beaucoup écouter les autres. Et tu vois, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais ça sert à rien,
Ouais.
etc., machin. De toute façon, ça marchera pas et tout. Et en fait, je pense que l'ancien moi aurait écouté, aurait dit, ouais, ils ont raison. Tu vois, genre un peu par facilité. Et en fait, bah là, quand j'ai commencé, je suis totalement honnête dans les podcasts que je partage, ça fait peur. Parce que tu t'exposes, tu as du travail derrière, t'as une autorité à faire valoir pour pas paraître pour un imposteur, parce que j'ai pas envie d'être paraître pour un imposteur. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que c'est un peu se sentir différent des autres. C'est un peu, vu que je partage des sujets, tu vois, je fais pas des défis où je mange de la moutarde, tu vois, genre des trucs à la con. Donc du coup, j'ai quand même, tu vois, je fais quand même des choses un peu différentes et il y a de ça aussi. Et c'est pour ça que je le fais pour moi, parce que je sais que si je le fais pour les autres, bah au final, c'est un peu aller à l'encontre de toi, ce que tu veux vraiment aussi. Donc, toi, tu vois, c'est pour l'anglais, tu le fais pour toi. Parce que tu sais ce que ça peut t'apporter. Moi, YouTube, c'est pour moi aussi, pour me prouver que je peux tenir un truc et que je peux construire quelque chose, tu vois. Et puis, si ça marche pas, bah écoute, ça marchera pas. Si ça marche, bah ça marche. Tu vois. Mais bon, après, c'est ça, je dérive totalement. C'est un truc qui me concerne. Du coup,
C'est clair,
on a parlé
c'est
évidemment
clair.
de tout ça, de l'impact du manque de sommeil. On a parlé un peu aussi de comment bien dormir, en fait, au final. Après, tu as d'autres tips, hein. Évidemment, s'il y a du cas par cas, mais globalement, faire en sorte de faire de l'activité physique. Enfin, les principaux points, c'est
Ouais.
faire de l'activité physique la plupart du temps. S'y tenir, bien manger, ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire ne pas être trop extrême dans les deux sens. Donc, ne pas être trop extrême en faisant trop attention ou trop d'abus. Tu vois? Je pense que tu es d'accord avec moi. Trouver quelque chose qui te correspond.
Ouais.
S'imposer un rythme de sommeil
Ouais.
régulier 80% du temps. Quand tu es en soirée, tu vas pas dire, attends, non, j'ai besoin de sommeil, je vais me coucher. Non, tu as le droit de profiter aussi des fois de certaines soirées avec tes proches, etc. Même si, bon, en ce moment, le contexte fait que c'est compliqué, mais voilà. Et puis voilà, quoi. Et puis prendre en compte que c'est important et que ça doit être une priorité. Je pense qu'on est bon. Ok, bon, Alexis a un petit problème de micro de téléphone. C'est pas grave, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien éclairci le sujet. Si tu as des questions ou que tu veux faire un retour, tu as deux options. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram et tu peux en plus également mettre une review sur Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup. Tu as en lien tous mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, mon site internet. Également, je vais mettre en lien ceux d'Alexis, même si je sais qu'il va de moins en moins, je vais les mettre quand même. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté le podcast. Je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut!